Bonjour, frères et sœurs, joyeux sabbat à vous tous. Je vous parle maintenant au mois de novembre et j'ai une question qui pourrait vous sembler un peu étrange. Est-ce que vous serez prêt à prendre la Pâque demain soir? Pourriez-vous, en bonne conscience, prendre la Pâque ce soir? Pourquoi ou pourquoi pas? Comme j'ai dit, c'est une question peut-être un peu étrange puisque nous sommes au mois de novembre, n'est-ce pas un peu trop tôt? Mais je vais essayer de vous expliquer que la question n'est pas si étrange que cela. La Bible dit que nous devons nous examiner avant de prendre la Pâque, et ça nous devons le faire. Nous devons nous examiner à l'approche de la Pâque. Mais dans un autre sens, nous devrions être prêts à prendre la Pâque à tout moment, puisque l'engagement n'est pas selon la saison et ne prend pas fin, l'engagement ne change pas. Nous devrions, en tant que chrétiens, être en mesure, en confiance, de prendre la Pâque à n'importe quel moment. Je me souviens très bien, encore aujourd'hui, d'un événement qui a eu lieu il y a des décennies de cela. Une dame a évité mon regard. Elle a regardé le sol. Elle était manifestement mal à l'aise. Elle a finalement dit quelque chose comme ceci, je ne me souviens pas des mots exacts, mais elle a dit « Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de progrès spirituel depuis l'année dernière. Je viens juste d'échouer à une épreuve spirituelle. » J'ai explosé chez mon conjoint. J'ai échoué. J'ai déformé la vérité à mon mari. Redescendu dans un péché que j'ai lutté pour surmonter depuis des années. C'est ça qui m'est arrivé depuis l'année dernière. Je pensais que je l'avais vaincu. Et puis voilà, je suis retombé dedans. Combien de progrès ai-je fait réellement depuis ma conversion? Je ne suis pas convaincu. Cela ne ressemble pas à être beaucoup. Au fil des ans, j'ai entendu un certain nombre de personnes dire des choses semblables à l'approche de la Pâque. Les gens qui ont eu peur de prendre la Pâque, de dire « je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne de prendre la Pâque ». D'où vient cette idée et comment est-ce que cette idée ou cette pensée devrait nous suivre pendant l'année, toute l'année? Devrions-nous avoir peur de prendre la Pâque? Pouvons-nous être prêts de prendre la Pâque à tout moment, tout au long de l'année? La Bible nous avertit de quelque chose à propos de la Pâque, mais pas seulement au moment de la Pâque. La Bible nous met en garde que nous devrions être prêts à prendre la Pâque à tout moment, puisque c'est un engagement qui ne change pas, qui ne dépend pas des mois ou des saisons. Regardons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. L'apôtre Paul explique à l'assemblée de Corinthe: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et à la différence de certaines églises dans le monde, nous comprenons que la Pâque tombe une fois dans l'année. Nous devons le prendre au printemps, une fois dans l'année. Pas autant de fois que nous décidions de le faire. Ça, ce n'est pas la Pâque. La Pâque est un jour saint qui tombe une fois dans l'année, une fête qui tombe une fois dans l'année. Car toutes les fois, chaque année, quand vous prenez la Pâque, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Prendre la Pâque incorrectement, sans discerner le corps du Seigneur, peut, d'après ce passage, mener à la maladie ou même jusqu'à la mort. La Pâque, comme nous l'avons déjà vu, tombe une fois dans l'année. Ce n'est pas à prendre chaque semaine, comme le font certaines églises, ou quatre fois dans l'année, comme le font d'autres. C'est une fois dans l'année, mais ce que je souligne aujourd'hui pendant le temps de ce sermon, c'est que l'engagement est pour toute l'année. Et nous devrions en fait être prêts à prendre la Pâque à n'importe quel moment. Comprenons ce que cela veut dire, celui qui prend la Pâque indignement. Nous verrons un peu plus tard ce que signifie sans discerner le corps du Seigneur. Comment est-ce que nous devrions discerner le corps du Seigneur? Mais dans ce passage, il est question de prendre la Pâque indignement. Est-ce que cela signifie que nous devrions être dignes nous-mêmes de prendre la Pâque? Que nous devons mériter de prendre la Pâque? Non, nous comprenons que cela ne veut pas dire ça. Si nous avons commis des péchés récemment, sommes-nous indignes de prendre la Pâque, le pain et le vin? Si oui, comment est-ce que nous pourrions devenir dignes de participer au symbole de la Pâque? Une partie de la difficulté vient des traductions, mais elle a fait au début des années 1600 pour la version Roi Jacques, qui a influencé les traductions dans d'autres langues également. Indignement est un de ces mots. Il est facile de penser qu'indignement veut dire que nous devons être dignes nous-mêmes de prendre la Pâque. Et en fait, ce n'est pas ce que cela veut dire. Indigne est un adjectif et décrit un nom, une personne. Mais indignement est un adverbe. Il décrit une action. Pas la personne qui fait l'action, mais la façon d'agir. Le mot grec est anaxios, d'une manière indigne. Ainsi, quand Paul parle de prendre la Pâque indignement, nous ne devons pas penser que nous devons être dignes, assez bons dans un état spirituel particulier pour prendre le pain et le vin. Non, nous devons le faire de façon digne. Nous devons agir dignement. Il n'y a pas question de nous. La Bible Roi Jacques, la nouvelle version Roi Jacques en anglais, dit une manière indigne. Donc, ce passage nous parle de la façon dont nous prenons la Pâque, l'action, non pas notre état spirituel particulier. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, nous l'avons lu, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, voilà le mot, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. D'une certaine façon, nous pourrions dire même celui qui vit d'une manière indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Si nous vivons de manière indigne, nous avons violé l'engagement que nous avons pris auprès de Dieu. Comment pouvons-nous prendre la Pâque d'une manière digne? Et comment pouvons-nous vivre tous les jours d'une manière digne du sacrifice de Jésus-Christ? Le même passage, explique ce que nous devrions faire en préparation pour prendre la Pâque. Mais en fait, comment nous devrions faire tous les jours de la vie en tant que chrétiens. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous devons donc nous examiner, nous éprouver, nous devons discerner le corps du Seigneur, nous devons nous examiner, et ça ne veut pas dire que nous devons être dignes. Personne d'entre nous n'est digne. Mais nous pouvons vivre dignement. Et au printemps prochain, nous pourrons prendre la Pâque dignement. Si nous pensons que nous sommes dignes de participer à la Pâque, nous avons un problème. Parce que personne d'entre nous n'est digne de prendre la Pâque. Aucun de nous ne l'est. Nous ne sommes pas assez bons, assez dignes pour prendre le sacrifice de Christ, symbolisé par le pain et par le vin. Nous n'osons pas nous considérer comme dignes. Aucun être humain ne l'est. Regardons Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Nous n'osons pas nous considérer comme dignes, nous ne le sommes pas. Nous devons penser sobrement, sérieusement, à ce que nous sommes vraiment, en tant qu'êtres humains, imparfaits, pécheurs, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il est intéressant de noter que pour certains, c'est plus facile de comprendre cette vérité que pour d'autres. Cela peut être un don spirituel, de pouvoir comprendre notre état véritable devant Dieu, ce que nous sommes réellement. Et comme j'ai dit, c'est plus difficile que pour certaines personnes que pour d'autres. Il y a des gens qui croient plus facilement parce qu'ils ne sont pas au courant de la vraie situation, qui sont dignes, qui sont bien devant Dieu. Vous avez connu des gens comme ça, et moi aussi. Parfois, nous sommes frustrés par les autres qui ne semblent pas comprendre pleinement. C'est frustrant, n'est-ce pas? Ils peuvent sembler fiers, arrogant même. Ne voit-il pas ce qu'il fait? Nous nous posons la question. Et parfois la question est non. Il ne voit pas. Elle ne voit pas ce qu'elle fait. Vous vous souvenez peut-être de la vieille chanson country qui disait « Oh Seigneur, c'est difficile d'être humble quand on est parfait à tout point de vue. » Je me souviens de cette chanson qui était très écoutée aux États-Unis. Certaines personnes ont plus de mal à se voir véritablement que d'autres personnes. Et si jamais, frères et sœurs, vous vous regardez, vous dites « ça va, c'est bien », peut-être que vous devriez regarder une deuxième fois. C'est comme les daltoniens qui regardent une image et ne voient pas la différence des couleurs. Ce n'est pas leur faute, ils sont incapables de voir la différence entre certaines couleurs, mais ils ne le voient pas. D'autres personnes sont capables de le voir, mais ceux qui souffrent de cette maladie du daltonien, ils ne le voient pas. Nous pouvons tous cependant progresser dans ce domaine, nous voir davantage comme nous le sommes, comme Dieu nous voit, nous pouvons tous progresser. La capacité de nous voir tel que nous sommes réellement, tel que Dieu nous voit, et souvent tel que d'autres nous voient. Parce que si nous ne voyons pas nos points faibles, si nous sommes confiants que tout va bien, eh bien d'autres personnes vont voir le contraire, vont voir la réalité mieux que nous. Parfois d'autres personnes peuvent être plus perceptives envers nos faiblesses que nous ne le sommes nous-mêmes. Revenons quelques chapitres en arrière, Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. L'apôtre Paul dit 3, verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, nous sommes tous sous l'empire du péché. Tout le monde est dans le même bateau, logé à la même enseigne. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes tous ensemble dans cette situation en tant qu'êtres humains. Cela veut dire que s'examiner, c'est regarder en face ces faits, que nous sommes loin d'être parfaits. S'examiner, c'est dire que nous voyons clairement notre grand besoin de patience de la part de Dieu et de la part des autres, de miséricorde, de bonté de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre besoin de son pardon, notre besoin de la présence de Christ dans nos vies. Et cela doit être à notre esprit tous les jours, pas seulement pendant quelques semaines au printemps, tous les jours de la vie. Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, à partir du verset 4, Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi, nous dit Jésus-Christ, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Ça, c'est notre situation. Mais il est facile pour nous autres, êtres humains, d'oublier cela, d'oublier que c'est notre situation, c'est la vérité pour nous. Sans Jésus-Christ qui guide l'ouvrage du Saint-Esprit dans nos vies, nous ne pouvons rien faire qui va durer au-delà de notre vie physique, notre existence physique, ce qui ne veut rien dire du tout à l'échelle d'éternité. Ça ne veut rien dire, ce que nous pourrions accomplir de nous-mêmes dans cette vie physique. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et comme j'ai dit, c'est facile pour nous autres, êtres humains, d'oublier cela et de passer notre journée à imaginer que nous accomplissons ceci ou cela, alors qu'en fait, nous n'accomplissons rien qui va durer, qui restera après la fin de nos vies physiques. Regardez avec moi aussi Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Là, il est marqué, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Ça, c'est notre existence journalière. Nous visons haut, mais nous chutons. « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, notre nature humaine, qui nous pousse dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, ce n'est pas notre volonté, forcément. C'est le péché qui habite en moi, nous dit l'apôtre Paul, la nature humaine qui existe indépendamment de notre volonté. Ça fait partie de nous. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Le péché qui est dans nos membres, c'est la nature humaine qui, comme j'ai dit, nous pousse dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Et puis Paul se lamente, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Comment est-ce que je peux m'en sortir de cette situation ?» Et puis, il donne la réponse, « Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Esclave de la loi du péché. L'examen de nous-mêmes signifie arriver à cette prise de conscience, la prise de conscience que Paul a décrit ici. C'est évident que l'apôtre Paul a passé du temps à réfléchir à son état. Il a réfléchi à sa vie. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Je vois que par ma volonté, je veux faire ce que Dieu me dit, mais par la chair, je trébuche, je tombe. Paul a passé du temps à réfléchir à la raison ou les raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Ses motivations, ses succès spirituels et ses échecs spirituels. Paul s'est examiné constamment. Quand il a écrit Romains, ce n'était pas à l'époque de la Pâque ou de la fête des pains sans levain. Paul avait cette compréhension constamment devant les yeux. Il s'examinait constamment. Alors c'est à nous de nous poser la question, est-ce que nos sens spirituels sont aiguisés au point que nous comprenons jour après jour ce que Paul décrit ici? Est-ce que nous avons cette vérité constamment devant nos yeux? Si cette vérité n'est pas devant nos yeux, nous aurions du mal à comprendre notre grand besoin de Dieu dans nos vies. Nous aurions du mal à comprendre notre propre petitesse. L'humilité est quelque chose comme une graine de pastèque humide. Vous avez essayé de tenir une semence de graines de pastèque chaque fois que nous pensons que nous avons une bonne prise dessus, pssit, et il s'en va. Ça, c'est un peu comme notre connaissance, notre compréhension de l'humilité, notre sens d'humilité nous-mêmes. Hop, c'est parti. Et nous retombons dans les mêmes états d'esprit, les mêmes attitudes. Dieu, par son Saint-Esprit, nous aide à retrouver cette attitude d'humilité, si nous le permettons. Et ça doit être une recherche de tous les jours. Chaque année, à travers la préparation pour la cérémonie de la Pâque, mais aussi, ça devrait être tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. À partir du verset 2, Jean chapitre 13, verset 2, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et c'est clair, à ce moment-là, ils n'ont pas compris. C'est seulement après, certainement quand ils ont reçu le don du Saint-Esprit, c'est là où ils ont pu comprendre plus pleinement. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Encore une fois, les pratiquer, pas seulement dans une soirée, dans l'année, au printemps. Ça doit être une attitude que nous avons tout au long de l'année. Un exemple d'humilité pour nous enseigner une attitude de soumission devant Dieu et de soumission les uns pour les autres. C'est ça l'humilité. C'est pour nous aider à nous replacer dans l'état d'esprit d'un serviteur, ce que nous devons être tous. Nous devrions tous être des serviteurs et avoir la mentalité de serviteur. La Pâque nous met physiquement dans la position de serviteur, mais nous devrions avoir cet état d'esprit tout au long de l'année. Aujourd'hui, ce soir, demain, demain soir, nous devons avoir l'attitude d'un serviteur. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. En Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Dieu appelle les gens de toutes sortes de milieux de la vie, même dans ses capacités, enfin de ses positions plutôt, là. Et nous devrions être compréhensifs, accueillants pour des gens que Dieu appelle, quelle que soit leur situation d'origine. C'est cela, ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est les milieux d'où sont sortis quelques frères et sœurs dans l'Église. C'est le cas encore aujourd'hui. Et là, nous ne devrions pas juger, nous devrions nous réjouir que Dieu a appelé des pécheurs comme nous. Nous sommes tous pécheurs à l'origine. Alors, verset 12, suite à cela, Paul explique son attitude. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres, sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. On se moque de cela aujourd'hui, la sexualité, c'est peu de choses. Aux yeux de Dieu, est très important, c'est une grande chose. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ah, c'est notre nouvelle existence. C'est comme cela que nous devons vivre maintenant que nous avons été pardonnés de nos péchés passés et que nous participons à ce que signifie la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Notre nouvelle existence. C'est comme cela que nous devons vivre. Nous sommes des serviteurs. Nous ne nous appartenons plus. Est-ce que nous nous comportons de cette manière, jour après jour, semaine après semaine, tous les jours de la vie? Ça doit être le cas. Pensons-nous dans ces termes? C'est important que ce soit le cas, non seulement au moment de la Pâque, mais tout au long de l'année. Quelqu'un a une fois demandé comment il pouvait savoir s'il avait l'attitude d'un serviteur. Et la réponse lui était donnée, vous pouvez le savoir par votre façon d'agir quand on vous traite comme un serviteur. Ça mérite une réflexion. Parce que souvent, nous n'aimons pas être traités comme des serviteurs. Nous aimons l'idée d'avoir l'attitude d'un serviteur, mais si quelqu'un nous traite comme un serviteur, ça nous frustre. C'est désagréable pour nous, n'est-ce pas? Comment savoir si vous avez l'attitude d'un serviteur? Par votre façon d'agir quand vous traitez de serviteur. Comment est-ce que nous agissons dans ces moments-là? Question importante à se poser. 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Le contexte ici n'est pas le contexte de la cérémonie de la Pâque, c'est le contexte de la vie. C'est une chose que nous devrions faire régulièrement, constamment même, je dirais, de nous examiner si nous sommes dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, dans la foi? La foi, ça veut dire quoi ici? Mais le mot grec, vous le savez probablement, c'est le mot pistis dans le grec, et ça veut dire différentes choses, selon le contexte. Assurance, croyance, ceux qui croient, fidélité. Tout cela résume, font partie de la signification de ce mot grec. La conviction de la vérité, de n'importe quoi, la croyance. Relatif à Dieu, la conviction que Dieu existe, qu'il est le Créateur et le Maître de toutes choses. Le pourvoyeur et le dispensateur du salut éternel en Jésus-Christ. Relatif au Christ, une conviction forte et bienvenue, ou la conviction que Jésus est le Messie, à travers lequel nous obtenons le salut éternel dans le royaume de Dieu. Les croyances religieuses chrétiennes. Croyance avec l'idée prédominante de confiance, que ce soit en Dieu ou en Christ, découlant de la foi. Fidélité. La fidélité à Dieu, le caractère de celui qui peut être invoqué. Tous ces aspects-là font partie de la définition de pistis, l'usage de pistis. Sommes-nous encore dans ces choses? Vivons-nous toujours nos vies avec cela en tête? Est-ce que ces préceptes nous guident dans nos activités et nos actions? Dignement ne signifie pas être parfait. Cela signifie plutôt de comprendre notre relation spirituelle avec Dieu le Père et avec notre frère Jésus-Christ. Le fait que nous ayons récemment péché ou que nous soyons particulièrement conscients d'une faiblesse ou d'une faute ne signifierait pas qu'on ne devrait pas continuer en tant que chrétien, que nous ne pourrions pas participer au symbole de la Pâque. Parce qu'en fait, frères et sœurs, en réalité, nous n'avons pas le choix de prendre la Pâque ou pas. Quand nous arrivons à ce stade de l'année, Dieu nous dit de prendre la Pâque. Examinez-vous et puis prenez la Pâque. Ce n'est pas un choix à faire pour nous. Oh, cette année, je ne me sens pas à même de le faire. Non, ça, ce n'est pas un choix pour nous. Le choix que nous avons à faire, c'est de nous examiner et de rectifier ce qu'il faut rectifier afin de pouvoir prendre la Pâque de manière digne. Et c'est une chose que nous devons faire, nous devons vivre de cette manière tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Luc chapitre 22, verset 19. Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il n'a pas dit, « Si vous vous estimez suffisamment bien, vous vous estimez digne. » Non, il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et tout comme nous devons le faire au moment de la Pâque, nous devons vivre ainsi tout au long de l'année. Ce n'est pas simplement un choix, une option. Oui, si vous estimez bien, faites-le. Non, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Discernez le corps du Seigneur. Nous considérons ce concept au moment de la Pâque. Mais je suis en train de vous dire, de vous rappeler que nous devrions faire cela tout au long de l'année. Discernez le corps du Seigneur. C'est ce que nous avons lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Discerner, c'est le mot grec diakrino qui veut dire séparer, distinguer, faire une distinction, faire une différence, mettre à part. Nous devrions faire toutes ces choses avec le corps du Seigneur dans notre compréhension, dans notre esprit. Comprendre la signification de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Le pain au moment de la Pâque nous rappelle le corps brisé de Jésus-Christ. Nous réfléchissons à ce qu'il a été prêt à faire pour nous. Mais c'est une chose à nous rappeler, non seulement à l'époque de la Pâque, mais tout au long de l'année. Tous les jours de la vie, nous devons nous rappeler de cela. Le vin, son sang versé pour nous, il était prêt à mourir horriblement afin de payer l'amende de nos péchés. Ça, c'est une vérité tous les jours de la vie. Nous devons réfléchir à ces choses et cette connaissance doit faire une différence dans notre façon de vivre, pas seulement au printemps, mais tout au long de l'année. Jean chapitre 6, à partir du verset 53. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ceux qui l'ont entendu à ce moment-là ne pouvaient pas discerner son corps. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Pour nous, à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de l'œuvre de Dieu dans nos vies, nous pouvons comprendre. Nous devons comprendre. Et non seulement, comme je répète, au moment de la Pâque, mais tout au long de l'année. Comment est-ce que nous sommes en lui? Romains chapitre 8, verset 1, dit que nous ne devons pas marcher dans la chair, mais selon l'esprit. Ces choses sont spirituelles. Et nous devons conduire nos vies spirituellement tout au long de l'année. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures, de nouvelles personnes. Nous devrions être débarrassés des anciennes voies, des voies pécheresses, afin de pouvoir obéir de tout cœur et pleinement à Dieu. Jour après jour, après jour. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et verset 27, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun de nous est un membre du corps de Christ. Nous sommes une nouvelle créature. L'Église est son corps. Nous sommes en lui lorsque nous faisons partie de son corps, de l'Église de Dieu. Et Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Nous rappelle. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cela devrait être notre existence de tous les jours. Christ vit en nous par son Saint-Esprit. Et cela nous mène à ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, qui va très loin et mérite réflexion de notre part. 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça fait partie de nos responsabilités, de tout faire pour la gloire de Dieu. C'est notre objectif. Nous ne pouvons faire cela quand nous sommes animés par l'Esprit du Christ, à travers le Saint-Esprit. C'est un dévouement complet pour la gloire de Dieu. Aux États-Unis, nous arrivons dans quelques mois à l'époque des impôts sur les revenus. J'ai lu récemment l'histoire d'un homme qui a écrit au fisc, il a écrit au département des recettes aux États-Unis. Il a dit, cher monsieur, ma conscience m'a troublé. Voici 175 $ que je dois en arrière des impôts. P.S. post-scriptum, si ma conscience me trouble encore, j'enverrai le reste. il y avait des limites à son repentir, moins qu'un engagement total. Notre engagement, frères et sœurs, doit être total et tout au long de l'année. Dieu nous donne tout cela, ce pardon, toutes les bénédictions que nous avons dans la vie, afin qu'un jour nous puissions devenir pleinement membres de sa famille. C'est son souhait. C'est ce qu'il souhaite pour nous. Rappelons-nous dans Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça, c'est notre avenir. Ça, c'est notre éternité, en fait, notre futur, à cause de notre relation avec Dieu le Père, à travers notre relation avec Jésus-Christ. Discerner le corps du Seigneur signifie comprendre la différence qu'il fait dans notre vie, pas seulement au printemps, tout au long de la vie, tout au long de l'année. Nous devons distinguer clairement ce que Jésus-Christ a fait pour nous et ce qu'il fait pour nous tout au long de l'année. Nous avons vu que nous devons, à l'approche de la Pâque, mais aussi tout au long de l'année, nous examiner. Comprendre notre besoin de Dieu et son aide et son pardon. Nous devons comprendre que nous ne serons jamais dignes de prendre la Pâque. Nous ne serons jamais dignes d'être des chrétiens. Nous ne serons jamais dignes du pardon gratuit de Dieu qui nous offre. Mais nous devons comprendre ce que nous devons à Dieu après ses dons gratuits pour nous. De prendre la Pâque de manière digne, oui, au moment de la Pâque, mais de vivre nos vies de manière digne tout au long de l'année. Cela nous rappelle les bénédictions merveilleuses que Dieu nous réserve, la vie éternelle dans sa famille. Il veut que cela nous soit rappelé chaque année au moment de la Pâque, et nous allons nous concentrer davantage là-dessus dans quelques mois. Mais nous devons avoir cela en tête tout au long de l'année. Êtes-vous prêt à prendre la Pâque? Nous devrions l'être tout au long de l'année.